Alors, donc là, on arrive aujourd'hui à la fin de cette séquence de six cours portant sur l'histoire connectée des sociétés de coûts. Et on va donc reprendre normalement le 2 mai de l'année prochaine avec six cours encore portant cette fois-ci sur l'Europe et l'Inde et la construction des relations entre les deux à l'époque moderne. Alors, donc aujourd'hui, je veux revenir sur un certain nombre de choses. Je vais aussi introduire quelques éléments, entre autres des éléments d'archives que je viens de trouver, pour repenser un peu cette question, donc à la fois des rapports, les agents qui étaient responsables pour les rapports, et aussi pour éventuellement penser à, plus généralement à cette question de comment en fait on fait une histoire connectée des sociétés sans tomber un peu dans le piège qui a été tendu par une historienne italienne qui a décrit celui qui fait l'histoire connectée comme un po' sarto, un po' elettrico, un peu tailleur et un peu électricien. En fait, je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir ni avec les tailleurs, ni avec les électriciens, en fin de compte. Alors, je reviens à ces questions des agents et des gens qui, en fait, sont capables, finalement, de penser ces cours ensemble, soit parce qu'ils ont une expérience multiple, ce qu'on a vu par exemple avec quelqu'un comme le capitaine John Smith quand on a commencé, c'est-à-dire quelqu'un qui à la fois était chez les Ottomans à un moment donné et en Virginie, en Amérique à un autre moment, et donc qui a essayé de traduire les concepts qu'il avait expérimenté chez un dans le cadre de l'autre, même si c'était assez improbable. Et bien sûr, quand on pense à ce genre de choses, on revient à un texte classique comme celui-là, il Libro del Cortegiano de Castiglione du début du XVIe siècle. Et en fait, ça, c'est un texte dans lequel il y a une série de personnages qui vont parler de différentes sociétés de cours. Et à un moment donné, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Messer Federico qui dit que, en fait, son idée, c'était au départ de faire la comparaison à partir d'Urbino, où il est, où il se trouve pour cette discussion, entre la France et l'Angleterre, ces deux cours, donc pas si éloignés que ça, avec des rapports historiques très importants, comme on le sait. Mais en fait, à un moment donné, il dit quelque chose qui m'a frappé, une petite phrase. Il dit « J'avais pensé, si j'en avais eu le temps, d'écrire non seulement la diversité de coutumes dans les cours des princes chrétiens, la manière différente de les servir, de les amuser, d'apparaître dans les manifestations publiques, mais parler également de la cour du Grand Turc. Et plus spécialement encore de la cour du roi Sophie de Perse. » Donc, apparemment, au XVIe siècle, à Urbino, les nouvelles étaient déjà arrivées de l'avènement de Shah Ismail, le roi Safavide en Iran. Et donc, il continue et ont entendu de la bouche des marchands qui ont longtemps séjourné dans ces pays que les nobles y ont un comportement d'une grande dignité et amabilité et que dans les relations qu'ils entretiennent entre eux, dans leur attitude à l'égard des femmes, et dans toutes leurs actions, ils font preuve de grande courtoisie et de discrétion. Donc, pour lui, il dit que toutes ces cours semblent avoir pour intérêt commun, et je cite encore, les armes, les jeux et les fêtes. Nel arme, nel giochi e nelle feste. Et donc, voilà, il trouve qu'en effet, ces cours peuvent être rassemblés en utilisant quelques thématiques en commun. Et d'ailleurs, c'est l'idée qu'on trouve même chez un certain nombre de textes venant du monde islamique, ce qu'on appelle parfois les textes d'adab, ou les mirzanames, comme on les trouve par exemple dans le monde persan, où on enseigne un courtisan, comment fonctionner. Et l'idée étant que c'est un type de fonctionnement qui est censé marcher pas seulement dans un cadre spécifique, mais quelque chose qui est transportable, qui peut se promener donc d'une cour à l'autre, surtout si, comme on a dans ce texte ici à droite, surtout si on a eu comme maître quelqu'un comme Aristote, ça va de soi qu'on peut couvrir un monde assez large. Alors, c'est donc quelque chose qui est pas seulement une thématique qui a été découverte récemment, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, et il y a donc cette espèce de va-et-vient entre l'historiographie récente, et là, je vous cite tout simplement deux livres récents, l'un en allemand et l'autre en anglais. Donc, c'est un ouvrage collectif, The Audience, dans lequel on parle de le contact entre les cultures sous une forme ritualisée. Et vous voyez ici qu'on a bien sûr l'empereur moghol comme emblématique de cette espèce de rapport entre cultures. Et là, par contre, on a quelqu'un d'autre, une historienne travaillant actuellement en Australie, si je ne me trompe pas, Saliha Belmessous, qui a écrit un livre donc, portant sur les rapports toujours entre la cour. Et là, en fait, l'exemple qu'elle a choisi, c'est la cour de Marat, en fait, en Inde centrale au XVIIIe siècle. Et là, c'est aussi une question de savoir comment faire pour comprendre les rapports diplomatiques et, en fait, comment construire, comme elle dit dans le titre, empire par traité. Donc, en fait, les rapports diplomatiques qui vont, en quelque sorte, permettre des conquêtes, et même si ça peut paraître paradoxal. Alors, on sait que pour tout ce qui est rapport ritualisé entre cultures de cour, l'exemple probablement le plus frappant et aussi d'un point de vue empirique le plus soutenu, c'est en réalité l'exemple japonais. Et c'est parce que on a, on le sait, une très très grande richesse de matériaux autour de ce contact extrêmement étrange qui est le rapport qui entretenait les Néerlandais avec la cour du shogun pendant le 17e, 18e et la première moitié du 19e siècle, car c'était une époque pendant laquelle les Néerlandais étaient les seuls Européens. Et j'insiste Européens parce qu'il y avait quand même des rapports avec d'autres Asiatiques, avec les Chinois, avec les Coréens, et même un peu avec les Russes, mais ça, c'était un peu plus compliqué. Mais en tout cas, avec les Européens de l'Ouest, c'était exclusivement le privilège des Néerlandais, et les Néerlandais étaient conscients de ça. Donc, par exemple, là, déjà, on a ce texte écrit, pas de première main, mais pas écrit par un compilateur, qui est Arnoldus Montanus, et donc c'est sur les ambassades, les gezantschappen, de Néerlandais, donc venant de l'île de Shima, où ils étaient, dans le sud, jusqu'à à Tokyo, où ils allaient. Et donc, vous voyez que c'est un livre richement illustré, un peu fantaisiste, bien sûr, mais qui fait partie donc, d'un grand corpus qu'on a. Et c'est quoi la spécificité de ces ambassades? Tout d'abord, c'est un rituel annuel. Ça se fait tous les ans. Et c'est accompagné par une espèce un aspect qui est tributaire. Donc les Néerlandais arrivent toujours avec des cadeaux extrêmement divers et compliqués. Et au bout d'un certain temps, ces cadeaux sont presque des commandes. C'est-à-dire le shogun va leur dire plus ou moins ce qui est à son goût ou ce qui n'est pas à son goût. Donc, par exemple, il y a un shogun en particulier qui aime bien les chiens. Donc, du coup, pendant un certain temps, à la fin du XVIIe siècle, les Néerlandais, dans les listes des skenken, ou des cadeaux qu'ils apportent, on voit toujours une diversité de chiens venant de l'Europe, donc des variétés inconnues apparemment. De la même façon, il y a d'autres qui aiment bien, par exemple, des choses comme les lunettes ou les télescopes ou autre chose, donc des objets de curiosité, mais parfois aussi des objets qui faisaient partie donc, de cette espèce de ce qu'on appelle le savoir occidental, le rangaku, qui était assez intéressant pour les shoguns et la cour shogunale. Et donc c'est quelque chose qu'on voit ici, par exemple, l'expédition des Néerlandais, ça vient du texte d'Engelbert Kämpfer, qui était un Allemand, lequel j'avais consacré un peu de temps l'année dernière. Donc, Kempfer, qui a écrit une histoire du Japon qui était très importante au début du XVIIIe, il a été à Déshima pendant à la fin du XVIIe, et là, il décrit un peu la cérémonie, l'expédition, comment on fait. Il a fait cette ambassade quelques fois dans sa vie, et là aussi, il insiste un peu sur l'aspect un peu étrange et très humiliant, très asymétrique des rapports, parce que les Néerlandais sont souvent obligés de rester à quatre pattes, ils ne peuvent pas se lever, c'est très rare. Et aussi, comme disait un des Néerlandais à un moment donné, ils avaient l'impression d'être traités un peu comme les singes. À un moment donné, par exemple, un des shoguns va demander à trois des Néerlandais qui sont là s'ils sont capables de chanter. Et alors donc, il s'avère qu'ils connaissent quelques chansons en commun, ils vont chanter une chanson donc, en néerlandais. L'année prochaine, il revient, il demande la même chose, et ces gens-là, de la deuxième année, sont moins mélomanes, donc finalement, il demande s'ils savent au moins danser, et même pas ça, donc il est très déçu. Et là, vous voyez qu'il les traite un peu comme des objets de curiosité, même ces gens venus, donc, de l'Occident. Donc, on a cette possibilité qui a été donc développée à partir de l'ouvrage de François Caron, flamand, qui travaillait pour les Néerlandais au milieu du siècle, à une époque un peu chaotique, où il y avait donc, vous voyez ici, une illustration japonaise montrant les rapports plutôt violents au début entre Néerlandais et Japonais, qui finalement a été contrôlé par cette situation artificielle de restreindre la présence néerlandaise dans une île, puis d'avoir ces espèces de rapports ritualisés et très, très contrôlés pour éviter justement la violence. Et d'ailleurs, donc, maintenant, on a pas seulement des textes comme celui-là de Peter Rietbergen, qui est très utile, mais plutôt un récit, je dirais, descriptif, que vous voyez ici à droite, mais le livre de Adam Clulow qui vient de sortir, qui est un ouvrage remarquable de quelqu'un qui, à la fois, a une très bonne maîtrise des sources en japonais et des sources en néerlandais. Donc, il fait exactement la jonction entre les deux sources. Il peut lire un corpus de sources contre l'autre pour arriver à faire une analyse, comme il fait, extrêmement extrêmement fine de ces relations, en quelque sorte, une espèce de modèle pour moi de comment traiter l'histoire culturelle des rapports diplomatiques, donc l'espèce d'histoire connectée finalement de culture de cours aussi. Alors, mais mon propos aujourd'hui, c'est passer à une autre situation. Une situation, donc on a le choix. On a beaucoup de possibilités pour traiter de ces rapports, mais pour terminer cette séquence, je voudrais revenir un peu sur des questions françaises. Et là, bien sûr, on a l'avantage qu'on a toute une histoire des tentatives, entre autres faites par des professeurs de Collège de France, comme ce livre d'Emmanuel Leroy-Ladurie sur Saint-Simon, le système de la cour. Parlons donc justement de la cour de Louis XIV, où en fait le cadre est plutôt d'une histoire, moi je dirais, comparée. Et même, il y a un moment donné, une tentative de la part de M. Leroy-Ladurie de faire quelque chose qui m'a toujours frappé, comme très intéressant, où il fait une comparaison entre la conception du système de caste chez l'anthropologue Louis Dumont avec le système hiérarchique de la cour de Saint-Simon. Donc vous voyez que c'est une espèce d'histoire, une tentative de faire une comparaison, mais une comparaison qui n'est pas une comparaison entre deux situations contemporaines, mais plutôt un modèle qui vient d'un anthropologue du XXe siècle avec quelque chose qui vient d'un courtisan du XVIIe. Mais là encore, on a cette espèce de tentative classique. Même chose qu'on trouve, par exemple, dans le livre de Michael Chang sur la cour des Qing à la fin du XVIIe, début du XVIIIe, où on remplace les Qing, et c'est pour des raisons bien évidentes, comme c'est une dynastie d'origine manchoue, mais qui a pris les allures d'une cour chinoise. Donc, il fait aussi ces comparaisons qui sont toujours possibles entre situations très différentes en Eurasie, soit pour faire une espèce d'éventail pour contraster, donc comparer pour contraster, ou comparer comme fait M. Leroy-Ladurie pour démontrer qu'il y a des... parfois, il faut justement, comme on l'avait dit, comparer l'incomparable. Il fallait donc aller de l'Inde du XXe siècle jusqu'à la France du XVIIe siècle. Alors, mon intention, cependant, c'est de revenir sur un aspect particulier de ces histoires connectées. J'avais traité ça brièvement l'année dernière dans un autre cadre, mais en fait, il s'agit de ce moment. C'est le tout début du règne de Louis XIV et c'est le moment quand on va donc créer la Compagnie royale des Indes. En 1664, sous Colbert. Et ça donne donc l'occasion de tisser une série de rapports diplomatiques, mais aussi des rapports qui vont donc donner lieu à des histoires connectées, finalement, entre les sociétés de cour. Et l'espace sur lequel je vais me pencher, c'est essentiellement l'espace de ce qu'on appelait parfois les empires de poudre à feu, Gunpowder Empires, c'est-à-dire un peu les Ottomans, mais surtout les Safavides et les Moghols. C'est là où les Français vont débarquer dans ces années 1660, et on va voir comment, en fait, ces rapports fonctionnent et surtout par rapport à ces questions d'agentivité, qui fait quoi, comment, quels sont les cadres reçus et donc pourquoi on fait plutôt opter pour un certain type de stratégie et non pas un autre. Et la personne sur laquelle je vais revenir, c'est quelqu'un dont la carrière a été traitée donc un peu l'année dernière, qui est donc ce monsieur... François Legousse de la Boulaye, donc né en 1623, donc il est angevin, il est voyageur, quand il est relativement jeune, il va faire des voyages en Europe, en Irlande, il est là pendant la guerre civile, et puis il se promène un peu ailleurs en Europe, et finalement il va revenir chez lui, dans les années 1650, il va publier donc ce livre, le livre de ses voyages en 1653, deuxième édition 1657, et il devient assez célèbre, il est très connu, il est même reçu à la cour, il est donc apparemment, ça c'est un peu plus difficile de démontrer, il aurait peut-être lancé un petit mouvement de mode persane. Donc, les gens aimaient apparemment à la cour de Louis XIV à l'époque s'habiller un peu à la façon persane en suivant les conseils de Legousse de la Boulaye. Il se marie en 1662 et quand la compagnie est fondée en 1664, on l'envoie avec un certain nombre d'autres pour tisser ses liens avec les cours de l'Orient. Pourquoi ? On reviendra sur cette question-là parce que il est reconnu comme plus ou moins comme un spécialiste, comme un expert. Donc c'est quelqu'un qui est censé connaître ces cultures, ces cours, et donc quelqu'un qui est particulièrement adepte pour ce genre de choses. Finalement, on verra que ça, il est vraiment pas tellement capable de mener à bien ces rapports diplomatiques, mais néanmoins, il est envoyé donc par la voie traditionnelle, la voie terrestre, au même moment que la compagnie va aussi envoyer donc des navires par la route du Cap. Ces navires vont arriver finalement à la même destination que le Legousse de la Boulaye, c'est-à-dire en Inde occidentale. Il y a une espèce de donc, convergence entre les deux trajets, mais lui, il va passer donc par la voie, comme je dis, traditionnelle, par l'Empire ottoman, par l'Iran, pour arriver donc finalement en Inde occidentale, ici. Et on verra, en fait, comment il fonctionne. Il va par la suite aller à la cour moghole, à l'époque à Agra, dans les années 1660, parce que temporairement, ils ont apparemment... ils se sont éloignés un peu de Delhi, qui avait été construit ou reconstruit sous Shah Jahan. Et au bout de quelques temps là, il va passer en Inde orientale, en se séparant de ses compagnons, apparemment avec un projet d'aller en Chine. Mais il est donc mort, il est tué en Inde orientale, probablement en 1667 ou 1668. Donc la dernière lettre qu'on a de lui, c'est une lettre qu'il écrit d'Agra en décembre 1666. Alors, donc, on peut aussi croiser ce qu'on sait de lui avec un certain nombre d'autres textes de l'époque. Je vous rappelle que Gouze-Laboulaye avait très bien connu Jean-Baptiste Tavernier, que lui aussi avait joué plus ou moins le même rôle. En fait, à la fin de sa vie, Tavernier est même envoyé par les Allemands pour tisser des liens avec l'Iran en passant par la Russie. C'est là où il va finalement mourir près de Smolensk, si je ne me trompe pas. Donc, on peut croiser ces relations, pas seulement les voyages de Tavernier, mais aussi cet autre recueil de plusieurs relations de Tavernier, dans lequel il y a d'ailleurs des observations sur la compagnie où il est extrêmement méchant à l'égard de Gouze-Laboulaye, qu'il n'aime pas du tout. Il trouve qu'il est très hautain, très snob, etc. Donc, cette espèce de problème de rapport social entre marchands huguenots et voyageurs aristocratiques catholiques. Donc, ça se voit, ça se joue même à l'étranger. Mais alors, donc, on va tout d'abord revenir au point de départ. Et en fait, l'occasion, c'est que j'ai eu la chance de trouver quelque chose qui est un document qui s'appelle « Instruction au sieur de Lalain ». Gentilhomme ordinaire de la maison du roi et de Boulaye le Gouze, maître particulier des eaux et des forêts en Anjou, s'en allant voyager dans l'Asie. Donc, c'est les instructions données par la cour à ces deux quand ils étaient sur le point de le départ. Voilà, donc je vais commenter ce texte en faisant quelques allers-retours sur d'autres matériaux aussi. Hein, voilà, donc dans le temps qui me reste. Alors, le texte commence comme ça. Donc, le texte est écrit probablement fin 1664. Sa Majesté, au milieu des grandes qualités qu'il a plu à Dieu le doué, ayant celle d'une curiosité louable d'être particulièrement informé de tout ce qui se passe non seulement dans les pays voisins de ses États, mais même dans les plus éloignés et dans les cours des plus grands princes du monde, a estimé à propos de se servir de la nécessité en laquelle est la grande compagnie de ses sujets que Sa Majesté a formée pour faire le commerce des Indes orientales, d'envoyer vers le roi de Perse, le grand Mogol et les autres rois et princes des Indes pour l'établissement de son commerce, pour faire ce voyage par les 10 sieurs de Lalain et de la Boulaye le Gouze, le premier pour être son domestique et avoir beaucoup de pratiques et de connaissances de voyage dans les pays éloignés, et le second pour la parfaite connaissance qu'il a des dits voyages, pour en avoir déjà fait plusieurs et en avoir fort heureusement donné les relations au public. Donc, il est présenté comme celui qui est spécialiste de ce monde oriental. Et tous deux, pour la confiance que Sa Majesté a en eux et pour l'affection qu'ils ont fait paraître en toute occasion pour le bien de son service. Donc, les 10 sieurs de Lalain et de la Boulaye doivent être informés du dessein que Sa Majesté se propose dans ce voyage, que n'est autre que de faciliter et même s'employer par toutes les connaissances qu'ils auront et pourront prendre tant dans les pays qu'auprès du roi de Perse, grand Mongol et autres rois et princes pour obtenir de la liberté de commerce pour ces sujets qui navigueront sous sa bannière dans toute l'étendue de leurs états avec les privilèges déchargés d'impositions et autres grâces autant et plus favorables qu'ils aient jamais accordées aux autres étrangers. Alors, donc, le premier problème qui se pose apparemment dans ce texte, et c'est un problème que je trouve assez intéressant, même comme point de départ, c'est que l'idée étant qu'ils vont passer tout d'abord par la cour persane à Isfahan, puis par la cour moghole. Et alors, l'idée là, c'est qu'il faut en fait surtout faire très attention à la présentation de l'image de Louis XIV. Ça me fait penser un peu, en fait, il y avait une plaisanterie que faisait Marshall Sahlins à propos de l'anthropologie réflexive, dans laquelle l'anthropologue va chez un tribu et il leur dit « Assez de vous, parlons un peu de moi. » vous voyez, donc, on ne s'intéresse pas tellement à l'autre, mais plutôt à se présenter soi-même. Et alors, donc, voilà, il nous explique dans ce texte quand ils auront donc fait leur demande, hein, aussitôt qu'ils y sont arrivés, ils commenceront leur négociation par le principal sujet de leur voyage, qui est d'obtenir la liberté de commerce pour les sujets de Sa Majesté, avec les décharges des droits d'entrée et de sortie et autres traitements les plus favorables. Et comme il est bien difficile que dans la suite de cette négociation, ce prince, que ce soit le roi Safavide, que ce soit l'empereur Moghol, ce prince et ses ministres ne s'informent soigneusement de Sa Majesté, les dix sieurs de l'Alain et de la Boulaye prendront garde de leur bien expliquer ses grandes et rares qualités. N'ayant rien que puisse tant obliger ce prince à bien traiter les sujets de Sa Majesté que la connaissance qu'il prendra par ce récit de sa grandeur et de sa puissance. Pour lui donner brièvement cette connaissance, ils pourront lui dire, après l'avoir préparé à entendre des choses qui, quoique véritables, ne laissent pas toutefois d'être presque incroyables, que c'est un prince qui est né dans la guerre et qui l'a soutenu l'espace de 22 ans, c'est Louis XIV, hein, qu'aussitôt qu'il a eu atteint l'âge de pouvoir lui-même conduire ses armées, il a fait plus de conquêtes dans cet âge que les rois les plus consommés et les plus braves n'en ont fait en toute leur vie, qu'enfin, après une si longue guerre, il a donné la paix au roi d'Espagne, qui lui a laissé 4 provinces, plus de 50 places, et a porté par ce moyen les bornes de son empire au-delà de ses bornes naturelles. Donc, roi qui fait la construction d'une espèce de grand empire. Alors, il est maître du Rhin par le moyen de 2 grandes places qu'il a retenues sur cette rivière, en marge, c'est écrit, Brissac et Philipsbourg. Il a passé les bornes des Alpes par le moyen de la place de Pignerol qu'il possède au-delà, qui lui donne l'entrée libre en Italie, et des Pyrénées par le moyen des comtés de Roussillon et Cerdagne qui lui rend maître de passage en Espagne. Depuis que la paix est faite, il a travaillé avec un succès presque incroyable au rétablissement de toutes ses affaires qu'il préfère toujours à ses plaisirs, encore qu'il ne soit âgé que de 26 ans. Donc il est toujours jeune. Et qu'il donne tous les jours 8 et 9 heures de temps à régler toutes ses affaires. Qu'il donne audience publique à ses sujets, se charge lui-même de tous leurs mémoires et leur rend bonne et prompte justice. Qu'encore que la coutume de nos rois soit d'être toujours au milieu des princes et grands seigneurs de leur cour, que sont habillés de même que Sa Majesté, sans aucune différence, vous voyez la différence avec les princes orientaux, hein, ils sont habillés de même que Sa Majesté, sans aucune différence, il n'est jamais arrivé qu'un inconnu les prie pour un autre, ni un autre pour lui. Tant la beauté et la grandeur de sa taille et la majesté de son visage sont faciles à remarquer. Voilà, donc on explique là aussi en quelque sorte que la cour, si vous voulez, est moins hiérarchisée qu'une cour qu'on aurait pu attendre venant de l'Orient. Et donc la différence n'est pas aussi nette dans la cérémonie même ou dans les traitements entre le roi et les autres, mais donc c'est le caractère même du roi que fait la différence. Que depuis 3 ans, alors là c'est Louis XIV recevant les représentants suisses en 1663, donc vous voyez c'est à peu près le même moment, que depuis 3 ans qu'il s'est donné tout entier à la conduite de ses affaires, il a fait des choses qui surpassent l'imagination. Il a réglé tous ses revenus et a trouvé un secret qu'aucun autre n'avait trouvé avant lui, qu'en soulageant ses peuples et leur accordant des grandes décharges, il n'a pas laissé d'augmenter ses revenus jusqu'à la somme de 60 millions de livres par an qui lui sont payés tous les mois. Et pour peu qu'il fût pressé de faire la guerre, il pourrait facilement les porter jusqu'à 80 millions. Ce n'est pas entièrement faux. On connaît en fait les réalités des revenus de Louis XIV et c'est vrai qu'ils sont là en augmentation. Et vous voyez que dans les années 1660, ils ont passé plus ou moins les 60 millions. Hein, ils sont en train de monter encore. Mais apparemment, on propose ici une espèce de version de ce qu'on appelait la courbe de Laffer, où on s'en fait augmenter les taux, apparemment on fait augmenter les revenus néanmoins. Mais alors, c'est qui finalement ce roi? Et comment est-ce qu'il faut le présenter? Il faut le présenter, selon la cour même, surtout comme un roi guerrier. Donc, l'idée étant que c'est un roi guerrier, c'est un grand conquérant. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça? On dit, donc, qu'il entretient toujours 30 000 hommes de troupes réglées dans son royaume, sans compter les garnisons et ses places frontières, etc. Et puis, on commence à raconter un peu comment il fait dans le quotidien. Il a donc sa garde ordinaire qui consiste en 10 000 hommes de pied en deux régiments, le premier de 6 000 Français et le second de 4 000 Suisses, en 800 vieux officiers restés de la guerre de 25 ans qui servent à la garde de sa personne et qui le suivent partout, 100 Suisses vêtus de ses livrées avec hallebardes, 100 archers qui servent à la justice de sa cour et suite et 50 archers qui servent à la garde des portes, 600 mousquetaires à cheval vêtus de ses livrées. Et 500 autres cavaliers en deux compagnies, l'une des gendarmes et l'autre des chevaux légers, tous gentilshommes ou vieux officiers de ces troupes. Alors là, en fait, c'est une espèce d'auto-ethnographie qu'on est en train de pratiquer. On se met dans les pieds de quelqu'un qui aurait été un voyageur oriental venu chez Louis XIV, parce que c'est exactement le même type de description qu'on aurait fait si on était français à la cour d'Iran. En décrivant la garde du roi ou avec le roi moghol, c'est à peu près ce qui fait, par exemple, quelqu'un comme Malherbe au début du XVIIe ou quelqu'un comme Eriard dans les années 1620. Donc, en fait, on leur dit en effet que vous n'avez pas besoin de venir nous voir pour faire votre description. Nous allons vous donner la description selon les règles de récit de voyage. Et alors, donc, il y a ces mousquetaires. Il y a des chevaux légers, etc., etc. Et donc, là, on continue, mais en restant un peu moins discret, qui ont trouvé ces forces maritimes entièrement perdues et anéanties, quoiqu'il soit beaucoup plus difficile de les rétablir que celles de terre, il n'a pas l'aîné d'y travailler avec tant de soin et tant d'application qu'en ces 3 années, il a remis en mer 15 galères, les meilleurs de toute la mer Méditerranée, et 50 grands vaisseaux de guerre, armés chacun de 40 à 50 pièces de canon de fonte verte, qu'il continue de bâtir ses vaisseaux et des galères de tous côtés, et on dessein de mettre en mer dans le même temps de 3 années jusqu'à 30 galères et 100 vaisseaux de guerre. Donc, roi guerrier, roi extrêmement fort, etc. Et alors, là, on commence donc à raconter, avec force détail, toute une série de choses. Donc, on parle, par exemple, de cet épisode de 1664, qui est la bataille de Saint-Gothard en Hongrie, où les Français sont impliqués dans une petite guerre, ce n'était pas grand-chose, où ils ont eu besoin donc, d'affronter les Ottomans. Donc, vous voyez, en fait, là, on revient un peu sur le rapport plutôt amical qu'on avait avec les Ottomans au XVIe siècle. Donc, Louis XIV. Il les a fait passer depuis la frontière de son royaume jusque dans la Hongrie, sans faire le moindre désordre, c'est-à-dire les troupes. Hein. Le jour même qu'elles y sont arrivées, l'armée des Turcs ayant forcé le passage d'une rivière qui les rendait maîtres de toute la basse Hongrie et ensuite de toute l'Allemagne, mis en fuite les troupes de l'Empire, alors les Habsbourg sont toujours déconsidérés dans ces récits, les Français qui étaient chargés de la garde d'un autre passage que les Turcs menaçaient incessamment de tenter, ne les laissaient pas, voyant le pressant besoin de l'Empire et la ruine qui était indubitable, etc., de détacher une aile de leurs troupes, et donc finalement, ils ont lutté autour de cette rivière, ils ont gagné, et voilà que les Turcs ont été battus. Mais ce n'est pas seulement ça, il est un peu partout, c'est ce qu'on raconte. Quand, en la même année, non seulement il a employé ses forces maritimes pour réprimer les corsaires de barbarie qui infestaient la mer Méditerranée, mais même pour les tenir en bride, il a fait passer la mer à ses troupes qui ont pris le poste de Gigérie sur la côte de l'Afrique, lequel il fait fortifier pour contenir de plus près et empêcher la continuation de leur piraterie. Alors ça, c'était un petit épisode. Je ne sais pas si il y a Ben, c'est certainement connu par la fiction, parce que si vous vous souvenez de la mort de Raoul de Bragelonne dans Dumas, en fait, il meurt là, à Jigéry. Et c'est donc en 1664. Mais ce qu'on ne raconte pas, c'est qu'il y avait un premier moment quand ils ont fait la conquête, mais un deuxième moment quand ils ont été repoussés. Donc, en fait, en fin 1664, les Français n'étaient plus sur Jigéry, ils avaient été chassés de la place. Mais à l'époque, quand on fait ce rapport, ils sont toujours là. Donc, deuxième grand exploit. Il continue. Et en la même année, il a envoyé ses forces maritimes jusque dans la terre ferme de l'Amérique, où il a établi une puissante colonie de ses sujets, outre toutes celles qu'il avait déjà dans les îles appelées Antilles. Et en la même année, il a formé une grande compagnie de ses sujets pour faire le commerce dans l'Asie et les Indes orientales, en sorte que l'on peut dire avec vérité qu'en une même année, il a porté la gloire de son nom dans les quatre parties du monde. Comment ? Alors, il explique. En Europe, en portant ses armes victorieuses contre le grand seigneur, en Afrique, en renfermant par ses forces maritimes les corsaires de barbarie dans leurs ports et occupant le poste de Jigéry, dans l'Amérique par l'établissement de ses colonies et dans l'Asie en obligeant ses sujets d'y porter leur commerce pour se joindre par ce lien d'amitié avec ceux des grands princes qui commandent. Donc, il est dans les quatre parties du monde. Et voilà, donc, on a compris que c'est quelqu'un qu'il faut prendre au sérieux, mais surtout comme un roi très expansionniste, très guerrier, etc. Mais il y avait néanmoins un petit problème. Et le problème se posait parce qu'ils étaient conscients du fait que, en réalité, ces deux personnes, les sieurs de Lalain et de La Boulaye, qui étaient envoyés, n'avaient pas avec eux grand-chose. Donc, ils n'étaient pas vraiment. Ils étaient peu crédibles, finalement, comme envoyés d'un si grand roi. Donc, là, on essaie quand même de mettre un peu, à la fois, un peu d'eau dans le vin, en disant qu'il faut aussi être sûr de ne pas dire qu'ils sont vraiment des ambassadeurs. Alors, donc, vous voyez que, comme Sa Majesté n'estime pas qu'il soit du bien de son service, qu'aucun paraisse en son nom près de ses princes, qu'avec l'équipage et toute la suite nécessaire et proportionnée à sa grandeur et sa dignité, les dix sieurs de Lalain, de La Boulaye, observeront de ne se dire ni envoyer ni député de Sa Majesté, mais seulement gentilhomme français, curieux de voir des pays étrangers et chargé par la compagnie établie dans le royaume et composée de tous les princes et grands de l'État avec tous les marchands des principales villes pour faire le commerce dans l'Asie et l'Inde, de demander aux dix rois et princes la liberté de commerce. Et pourquoi ? Alors, c'est parce que... on fait tout de suite une petite comparaison. Ça vient du récit de Chardin. Donc Chardin, qui était grand connaisseur du monde, surtout du monde iranien, aussi le monde ottoman, qui n'avait jamais passé tant de temps avec les Moghols, mais regardez par exemple cette description qui vient de Chardin. Je vis à la cour de Perse, la première fois que j'y arrivais, un ambassadeur de grand moghol. C'est un autre type d'ambassade. Avec un aussi grand train, à mon avis, qu'aucun ambassadeur ait eu jamais. Le grand Moghol n'avait point encore envoyé d'ambassadeur au roi de Perse, quoique le roi de Perse lui en eût envoyé un à son avènement à la couronne des Indes l'an 1660. Il se trompe un peu, mais il parle ici d'Aurangzeb. Cet ambassadeur était arrivé en Perse l'an 1663. Donc vous voyez, c'est juste un an et demi avant cette ambassade-là. Avec un train de 8000 hommes, de 4000 chevaux et de 8000 bêtes de charge, presque tous chameaux. Il fut 6 mois en chemin, depuis les frontières jusqu'à la cour, et 9 autres mois avant que d'avoir audience, et durant tout ce long temps, ils étaient logés et défrayés. C'était un vieillard grave et sage nommé Terbiyat Khan. Le sujet de son ambassade était pour redemander la ville et la forteresse de Kandahar, que dans ces derniers siècles est la matière de contestation perpétuelle entre les Persans et les Indiens, comme toujours. Chardin plus ou moins exact, mais vous voyez que si on est face à ce genre de manifestation qui se présente comme ambassade, il faut être un peu plus sérieux. Donc, du coup, on voit pourquoi on a pris ces précautions pour dire que c'était pas vraiment, c'était ambassade, mais pas ambassade, c'était pas de vrais envoyés non plus, etc. Alors, donc, je vais me pencher sur... il y a des choses certainement à dire sur sur Boulay et Lalin à la cour d'Isfahan. Et d'ailleurs, il y a une grande partie de ce texte de Tavernier qui est un texte extrêmement méchant envers eux, les espèces de luttes de pouvoir et de niveau entre les marchands et les gens de la noblesse, entre les nobles eux-mêmes, etc. Mais je vais plutôt penser au deuxième moment quand donc, ils vont arriver, surtout Lalin étant mort, en fait c'est Boulay qui va arriver donc, à Surat, sur la côte occidentale de l'Inde, pour aller vers la cour moghole. Donc il est à Surat en 1666, il arrive de Kong, de Bandar Kong dans le golfe Persique, et il arrive donc dans cette ville, cette grande ville, peut-être une des plus grandes villes portuaires de l'époque de l'océan Indien. Et il est donc, il va voir, il y a là le château, là c'est les deux enceintes, et donc il va voir tout d'abord le gouverneur, qui normalement est quelqu'un qui est assez bien placé, mais il a de la difficulté pour se rendre crédible. Parce qu'il n'a pas ce qu'il faut au niveau des équipages, etc. Donc, voici la lettre qu'il écrit en avril 1666 à Colbert. Donc, c'est Boulay lui-même. Ça, c'est donc, pour le deuxième voyage. On n'a pas un récit, mais on a toute une série de lettres, d'ailleurs, qui commencent dans la Méditerranée, qui vont jusqu'à Agra. Ce matin, nous avons donc été voir le gouverneur de Surat pour lui demander la permission d'aller trouver le roi sur ce que l'on nous avait averti, que nos ennemis essayaient à nous faire rester jusqu'à l'arrivée de nos vaisseaux. Parce qu'il y avait donc les vaisseaux de la compagnie qui arrivaient par la route du Cap, mais toujours pas arrivés à l'époque. Il nous a fait parfaitement bien reçu, nous a accordé tout ce que nous lui demandions, et nous a promis d'écrire à l'empereur, son maître, en notre faveur, et nous adresser à son frère qui est fort bien auprès du roi et nous donner un homme pour nous conduire afin que nous soyons dépêchés promptement. Ensuite, il nous a fait présent de si belles pièces d'étoffe et nous a montré tous les témoignages imaginables. Nous avons trouvé ici un père capucin appelé le père Ambroise qui jusqu'ici nous a bien servi. En fait, à la fois à Isfahan et en Inde, en fait, ils vont toujours passer par les capucins. Et d'ailleurs, cette médiation faite par les religieux catholiques reste un sujet à étudier parce que même si on a consacré une certaine attention à un personnage en particulier, qui est le père Raphaël Dumont, qui était pendant assez longtemps à Isfahan, il y a d'autres, il y a donc ce père Ambroise de Neuilly, si je ne me trompe pas, il y avait un père Ephraim de Nevers, il y avait père Zénon de Bourget, etc. Donc tous ces capucins surtout qui se promenaient avec des liens avec la France et qui étaient donc souvent là pour jouer l'intermédiaire avec les autorités locales. D'ailleurs, Jean de Thévenot était là à l'époque, plus ou moins. Donc, en fait, on peut aussi croiser ces deux récits. Thévenot qui était là et il nous dit « Le gouverneur étant content de la réponse de Père Ambroise, il se pria d'écrire en langue persienne tout ce qu'il avait dit, c'est parce qu'il y a des soupçons sur les Français, on pense que les Français sont des corsaires. » Donc, on a posé des questions à ce père Ambroise qui a donné une réponse. Aussitôt qu'il le fait, il l'a envoyé à la cour, le grand Mogol l'étant fait lire au divan et en fut satisfait, aussi bien que ses officiers, et tous souhaitèrent ensuite l'arrivée des vaisseaux français. En effet, ce gouverneur fit mille amitiés au sieur de la Boulay et Bébert. Maintenant, il n'y a plus Lalin étant mort, il y a Bébert qui est le deuxième qui est avec lui, envoyé de la compagnie, et leur dit que sur le témoignage de Père Ambroise, il leur rendait tous les services qu'il pourrait. Le président anglais, alors là, on rentre dans une petite histoire qui est assez intéressante. Le président anglais, c'est donc le chef du comptoir anglais. Ancien ami de ce père, leur fit aussi tous les honneurs qu'il put après avoir envoyé son carrosse, etc. Mais c'est qui ce président anglais? Il s'avère en fait que ce président anglais, c'est quelqu'un qui est pas seulement un ami du père Ambroise, mais qui est un grand ami de la Boulay. Et il y a donc des liens assez intéressants entre anglais et français parce que cet anglais en question, c'est un aristocrate anglais qui s'appelle donc George Oxenden. Vous voyez ici son tombeau à Surat. Il s'est fait, aussi lui et son frère, sont morts à Surat et on a construit ces espèces de bâtiments hybrides qui est dans le cimetière anglais, avec des grands textes d'ailleurs en latin sur leur pierre tombale. Je pense que celui du frère cadet, qui est Christopher Oxenden, était écrit en latin en vers et l'autre en prose. Mais en tout cas, ce sont des grands messieurs. Et d'ailleurs, ce sont des personnes assez intéressantes. Je vais ouvrir et fermer cette parenthèse qui, pour moi, reste un sujet à traiter plus en détail. Oxenden était donc royaliste. Il était aristocrate. Il venait d'une grande maison en Kent. Et il était très, très lié avec Charles II, la cour de Charles II, etc. Mais il était aussi très, très lié avec tout un milieu littéraire. Et ce qui a produit quelques effets un peu inattendus. Par exemple, il y a un texte assez amusant publié dans ces années qui s'appelle Hudibras. Et ce Hudibras, c'est un texte satirique, texte poétique écrit par Samuel Butler. Et Samuel Butler, en fait, il se moque des différences religieuses, il se moque de plusieurs choses. Et parmi les vers, il y a par exemple ça qui vient, qui est assez connu. Je vous donne la traduction française de l'époque, qui n'est pas si jolie que la version anglaise. Du roi de Combay, on assure qu'il ne prend pas d'autre nourriture que des aspics et des crapauds ou tels venimeux animaux. Et si piquante est son haleine qu'à chaque nuit crève une reine. Et alors là, par contre, la version anglaise, beaucoup plus économique et beaucoup plus frappante, c'est « The Prince of Cambay's daily food is asp and basilisk and toad, which makes him have so strong a breath that each night he stinks a queen to death. » Et d'ailleurs, ça c'est intéressant parce que c'est une information qui porte sur le sultan de Gujarat, Mahmud Begara. Et déjà au début du XVIe siècle, il y avait des mythes qui couraient autour de Mahmud Begara, qu'il avait l'habitude de prendre des poisons en petite quantité pour éviter d'être empoisonné. Mais le résultat, c'est que quand il était assis dans sa cour, si une mouche se posait sur lui, elle tombait morte tout de suite. Et alors là, ce que je trouve intéressant, c'est que Butler, en fait, avait une certaine connaissance de toutes ces choses, et c'est assez probable qu'en fait, ça venait de sa correspondance, parce qu'on a préservé une partie dans les archives de la correspondance d'Oxenden, et il y a pas mal de lettres échangées donc, entre lui et Butler, et vous voyez un peu comment ces espèces d'aspects mythiques comme ça, ou comme il y a une fameuse histoire des singes dans la cour moghole qui parlaient, et en fait, ce genre de choses vient donc en Angleterre, ils vont même s'incorporer dans la littérature anglaise de l'époque. Donc, Oxenden, c'est aussi une pièce clé dans le dispositif de la Boulaye. Il va aussi jouer Oxenden pour avancer son affaire. Mais alors, donc, finalement, il arrive à Agra. Et qu'est-ce qu'il est censé dire, à part ces questions de parler de Louis XIV, grand guerrier, grand conquérant, etc. Alors, selon les instructions, voici ce qu'il est censé dire. Qu'outre toutes ces grandes actions que regarde le dehors, il, c'est-à-dire Louis XIV, ne s'applique pas moins à ce qui regarde le dedans de son royaume, où il fait partout régner la justice, ce qui lui donne l'amour et la vénération de tous ses sujets. Outre cela, il prend plaisir à faire fleurir les beaux-arts dans son royaume et à les employer à sa grandeur et à sa magnificence. Il fait son séjour ordinaire dans la ville de Paris, capitale de son royaume, qui est composée de 40 000 maisons et de 800 000 âmes. Petite exagération. Cette ville est assise sur les bords de la rivière de Seine, qui se décharge dans l'océan à 50 lieues de la dite ville. Outre les églises et ouvrages publics qui sont magnifiques, ce prince fait bâtir à présent le plus superbe palais, ou pour mieux dire, les deux plus superbes palais qu'il y ait au monde. Ils sont bâtis tous deux sur les bords de la Seine. Le premier consiste en un carré, dont les faces sont de 70 toises et les appartements doubles, et le second qui est à 500 toises Et ce premier consiste en une seule face de 165 toises. Ces deux palais sont joints par deux galeries qui s'étendent le long de la rivière, l'une de 40 toises et l'autre de 500, etc. etc. Donc, on va décrire ces deux palais. On n'est toujours pas à l'époque de Versailles, bien sûr, on est toujours dans le Louvre, et on continue. Quand les ambassadeurs et princes étrangers viennent à l'audience de ce prince dans les occasions de cérémonie, après avoir vu en bataille dans leur poste toutes les troupes qui sont à sa garde, passent au travers de cette grande cour du premier palais, ils montent en un escalier superbe, ils passent les appartements qui sont l'étendue de 70 toises, etc., etc. Là, ce prince, sur une forme de trône élevé de deux marches et séparé par une balustrade sous un dais très riche, leur donne audience et ensuite ils sortent par le second palais. Outre toutes ces vérités qui sont déduites suivant les rencontres et sans trop d'affectation, les dix sœurs de la Lain et de la Boulaye pourront encore parler de la grande beauté et quantité de villes du royaume, de la bonté et fertilité de toutes les terres, de grand nombre de peuples, etc., etc. Donc, on va continuer un peu comme ça. Il y a une dernière petite remarque sur laquelle je vais revenir. Mais, alors, on sait qu'à l'époque se trouvait à la cour moghole quelqu'un d'autre, François Bernier. Et on a, en fait, une lettre de Bernier qui vient de 1668. Où il fait, pas ouvertement, mais il fait des commentaires sur cette façon de se présenter. Et il explique, en fait, à Colbert comment ils sont totalement trompés. Et pourquoi ? Parce que, selon Bernier, impossible pour les Moghols d'imaginer cette espèce de comparaison entre eux et cet autre roi. Et surtout, selon Bernier, et je vais revenir sur cet aspect-là de son texte, le problème, c'est que les Français sont déjà soupçonnés d'être des corsaires, des gens extrêmement violents. Et toute l'expérience qu'ont les Moghols des Européens, c'est en leur voyant comme des gens qui sont sans bornes, sans contrôle, et potentiellement qui représentent une violence inouïe. Alors, donc, pour Bernier, il faut surtout en fait, essayer de soulager les gens. Et on ne peut pas atteindre pour lui l'empereur. L'empereur est un peu trop inaccessible. Il faut passer par un certain nombre de grands. Il y a surtout donc, quelqu'un qui était son maître à lui, pour qui Bernier avait travaillé pour faire des traductions de grec et de latin en persan, qui est Danishmend Khan. Mais c'est surtout ce monsieur-là qui est l'homme clé de la cour à l'époque. On est dans les années 1660, et c'est Omdatul Mulk Jafar Khan. Il est, je ne trouve pas le mot en français, mais en persan, on dirait Hamzulf. Donc, lui et Shah Jahan étaient mariés à deux sœurs. Donc, vous voyez qu'ils n'étaient pas exactement beaux-frères, mais en quelque sorte, le mot Hamzulf veut dire des gens qui partagent des cheveux, en quelque sorte. Hein. Donc, lui, c'est un Iranien. Il est donc descendant d'Etemad al-Dawla et d'Asaf Khan. Mais c'est lui, donc, tout en étant donc persan, et probablement donc chiite, détenait un grand pouvoir à la cour moghole à l'époque, et étant persan, il est aussi assez probable qu'il avait beaucoup d'intérêt lui-même pour le commerce. Donc, c'était très important pour lui d'avoir des gens qui n'étaient pas aussi violents que les Néerlandais, par exemple, ou les Portugais. Et voilà ce que dit Bernier dans sa lettre. Or, je croirais surtout nécessaire de faire bien entendre à Jafar Khan et avec adresse, le vrai motif qu'ont eu les Français de faire cette compagnie, de venir aux Indes, afin de leur pouvoir ôter, comme j'ai dit, tout mauvais soupçon, et de leur faire bien comprendre que c'est pour le bien de l'Hindoustan, tâchant bien de leur faire comprendre que de tous les Ferengis, les Frangis, les plus industrieux et les plus grands ouvriers sont les Français, que c'est en France qu'ils se vendent presque toutes les marchandises des pays étrangers pour y être mises en œuvre. Que la France, et comme c'est drôle comme il utilise un mot persan dans sa lettre en français, hein, mais que la France est comme le Karkhané général. Hein, le Karkhané étant une espèce de factorerie en quelque sorte. C'est comme le Karkhané général de Franguistan et comme le magasin où se viennent fournir des manufactures toutes les nations de ce côté-là. Ils ont par conséquent besoin de marchandises de toutes sortes qu'ils sont obligés d'en aller chercher dans les pays étrangers, comme dans l'Italie et le royaume de Khandakar, c'est-à-dire l'Empire ottoman, aux grands seigneurs et autres qui se vendent là bien plus cher que dans l'Indostan. Ils sont obligés de prendre quantité de sel que les Anglais et Hollandais apportent des Indes et les achètent très cher au prix qu'ils veulent. Alors, donc, stratégie de Bernier, c'est tout à fait autre. Il ne faut surtout pas parler de la guerre. Il ne faut surtout pas présenter Louis XIV comme... Il faut le présenter, comme on aurait dit au début du XVIe siècle, comme un roi épicier, en fait. Il faut le présenter comme quelqu'un qui sait contrôler le commerce, mais l'image de celui qui fait la conquête des quatre parties du monde, qui a donné des leçons aux Ottomans en Hongrie, qui a fait des conquêtes en Afrique, tout cela, c'est pas du tout le bienvenu. Et en prenant cette stratégie-là, selon Bernier, ils ont en fait... commencer d'une façon pas du tout appropriée à traiter la cour moghole. Et d'ailleurs, comme on imagine, Boulay et Bébert étaient passés par là, par le fort rouge d'Agra, s'ils étaient dans cette cour de grand moghol, soit ici, dans un de ces deux endroits, il aurait donc probablement eu de mal à se présenter autrement, et surtout avec des présents des cadeaux très pauvres qu'ils avaient avec eux, autrement que comme représentant d'un royaume donc qui n'était pas du tout en train de faire la conquête générale du monde, et même si c'était en quelque sorte la vérité sur ce que Serge Grudzinski a appelé la démesure européenne, c'était peut-être mieux, comme disait Bernier, d'être un peu discret sur cet aspect-là. Finalement, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Donc voilà le texte, finalement, de Farman qu'ils ont eu. Donc ça vient de septembre 1666. Ça, c'est le texte où Boulay n'est pas mentionné, mais c'est Bébert qui est mentionné dans le texte, où ils ont donc, il y a donc réponse à la requête à droite, où l'empereur dit « Nous qui, par notre bénignité accoutumée et désir du repos et profit de tous, notre volonté et intention à laquelle tous doivent obéir, est que de toutes les grâces, faveurs et libertés dont jouissent les Hollandais et les Anglais, que de même jouissent les Français, et pour cet effet, leurs navires venant à notre port de Swali, c'est donc Surat, il leur sera donné un lieu pour y mettre leurs marchandises, etc. etc. Donc, ils sont là à pied d'égalité avec les autres Européens. Donc, ils ont finalement reçu ça, et par la suite, ils ont reçu deux autres farman dans les trois ou quatre années qui ont suivi. Alors, donc, je termine plus ou moins là où j'avais commencé avec ce modèle de la cour moghole. Comment faire pour aborder cette cour? Quoi dire quand on est face à ce roi plutôt imaginaire qui se trouve au milieu de cette cour entouré par ses pachas ottomans et ses mandarins chinois, comme on a dans ce modèle qui est à Dresde? En réalité, vous voyez que ce n'était pas du tout évident pour les gens de l'époque de savoir comment faire. Quelle était la meilleure façon de faire les équivalences? Quelles étaient les meilleures stratégies, en quelque sorte? On voit ça déjà dans cette espèce de discussion vive entre deux sortes de stratégies. Et par la suite, on aura aussi beaucoup plus de discussions en passant, par exemple, de 1666 au début du 18e ou des années 1740, quand autour de Dupleix aussi, il y a des gens qui ont des opinions très, très différentes sur comment aborder les Moghols, quoi faire avec, comment traiter toutes ces questions-là. Finalement, on sait aussi que Guzla Boulay a décidé qu'il ne voulait plus représenter les Français. Il a abandonné la mission, il a abandonné l'ambassade, et il est allé chercher le chemin de la Chine, où il a été tué, selon Tavernier, toujours mauvaise langue, il a été tué parce qu'il portait avec lui une caisse avec beaucoup de bouteilles de vin Mais on a pensé que, comme c'était très lourd, il y avait des pièces d'or dedans, et c'est pour cela qu'il a été tué en traversant le Gange près de Patna. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que finalement, il n'y avait pas une voie ou une solution pour faire une histoire ou une connexion entre les cours. Il y avait toujours plusieurs stratégies, ce qu'ils avaient. Donc ici, comme c'était également le cas dans un échange beaucoup plus répétitif, beaucoup plus ritualisé, comme celui des Néerlandais au Japon. Donc finalement, j'ai voulu un peu aussi faire cette espèce de contraste entre un type d'échange à répétition. Chaque année, on se répète, c'est presque les mêmes gestes, mais pas tout à fait. Et là, c'est quelque chose où on aborde un problème. On a bien sûr quelques références, on peut aller regarder le passé. Le passé est représenté par les Néerlandais, par les Anglais, par les Portugais qui ont déjà fait ce chemin, mais là, ils sont en train de brosser leur propre chemin. Et donc, il y a aussi cette espèce de contraste à faire entre, donc, si vous voulez, échange plus ritualisé et échange, donc finalement, moins ritualisé, plus improvisé. Et en fait, c'est dans cette improvisation qu'il y a aussi un certain intérêt. Voilà, donc, je vous remercie.